point sur l'actualité économique avec les rédactions du magazine Bilan et de Radio-Lac. En partenariat avec realtimeforex.ch, spécialiste du trading en ligne de devises, et le groupe hôtelier Manhotel.
Tout de suite, on retrouve Irma Danone en compagnie de Thierry Vial en direct de l'hôtel Royal, du bar de l'hôtel Royal pour ce lunch Tendance Éco. Bonjour tout le monde.
Bonjour Sophie, bonjour à tous. Alors effectivement, avec Thierry Vial, aujourd'hui nous recevons François Michelou de Michelou et compagnie pour parler effectivement des plus riches. Vous savez que ce classement de bilan va sortir demain. On s'intéresse aux plus grandes fortunes suisses et à ces étrangers qui sont venus s'installer en Suisse. Un classement assez impressionnant, très positif, avec notamment les 118 premiers milliardaires sur 300 plus riches. Ça semble énorme. Thierry Vial, à quoi est-ce qu'on explique cette augmentation par rapport à l'année passée?
En effet, il y avait 107 milliardaires l'année passée, ils sont 118 cette année, ça représente tout de même 40% du classement des 300 plus riches de bilan. Et en fait, la croissance de ces fortunes est due en fait à la bonne tenue de l'économie mondiale qui marche bien, les marchés financiers marchent bien, et comme ces gens en fait ont leur fortune à cause de leurs actions, plus leurs entreprises sont florissantes, plus leur fortune est énorme.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas de l'argent qu'ils ont empoché dans leur compte en banque, c'est juste la valeur de leurs entreprises qui ont augmenté vu la bonne santé des entreprises.
Alors tout à fait, c'est une fortune sur le papier, donc ces gens peuvent pas aller à la banque et retirer 1 milliard de francs, c'est la fortune qui est représentée par leur entreprise, c'est leur outil de travail.
Alors vous êtes le spécialiste parce que vous avez travaillé justement sur ce classement. Quelle est l'évolution, les secteurs qui sont prédominants, qui sont les plus riches?
Si on prend sur les 118 milliardaires, l'industrie et la technologie représentent quand même 33 personnes sur ces 118. Ensuite, on a tout le domaine des héritiers, des investisseurs qui sont 29 sur les 118. Et ensuite, il y a quand même les services, tout ce qui est le domaine des services et du commerce, où ils sont 21. Ensuite, il y a les banquiers, tout le domaine financier, bancaire pur, où ils sont 13.
Alors, si on parle des 5 premiers, parce que c'est ceux qui reviennent le plus.
Alors, on a toujours Ingvar Kamprad qui est en tête de classement avec 26 milliards cette année, plus 5 milliards.
Patron d'IKEA,
exactement. On a la famille Uri Hoffmann qui sont à 21 milliards, qui ont plus 5 milliards également. Et ensuite, on a un nouveau qui arrive directement en troisième place du classement, qui est monsieur Viktor Vekelsberg, qui est un russe qui a fait sa fortune dans diverses participations, et lui, il a 14 à 15 milliards.
Alors, quand on dit nouveau, il n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Il était déjà très proche du milliard.
Alors, pour la plupart des milliardaires du classement, en effet, ils étaient très proches du milliard. Comme l'économie a bien marché cette année, beaucoup ont franchi la barrière du milliard. Mais c'est pas des gens, on a deux nouveaux milliardaires dans le classement, mais sinon, c'est des gens qui étaient déjà riches l'année passée, les années précédentes.
Alors, juste pour que les auditeurs comprennent, à titre de comparaison, quand on avait commencé à faire ce classement, on arrivait à additionner les 100 plus riches et on arrivait à...
On arrivait à 60 milliards, c'était au tout début c'était le premier classement il y a 18 ans. Et aujourd'hui, si on additionne les 4 premières fortunes du classement seulement, on arrive à dépasser ce montant. Et si on prend la fortune totale juste des milliardaires du classement, on arrive à un montant impressionnant puisqu'on arrive à 460 milliards de francs.
Ce qui est plus que le PIB de la Suisse, ça fait tourner la tête. Et donc cet argent, il faut le dépenser d'une façon ou d'une autre. Il faut faire venir ces gens en Suisse pour qu'on soit tous très bénéficiaires de tout ça. Et alors ça, c'est un peu la fonction de François Michelou. On peut le dire, c'est ce que vous essayez de faire venir ces grosses fortunes en Suisse. Comment est-ce que vous faites?
Alors d'abord, j'aimerais dire qu'ils viennent tout seuls. La Suisse a un renom qui précède nos services. Donc finalement, nous, on arrive à un moment où on est plutôt dans la réalisation. Donc les gens connaissent la Suisse non seulement pour, disons, la qualité de la vie, la qualité des paysages, la centralité du pays, mais également, et je crois que c'est un secret de Polichinelle, pour le forfait fiscal.
Mm-hmm. Mais alors, avant, ces personnes-là s'adressaient directement aux banques. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent chez vous?
Alors, directement aux banques, je comprends pas exactement...
C'est-à-dire que c'était les banques qui s'occupaient d'installer ces personnes en Suisse et de faire en sorte que leur situation soit au mieux. Alors, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ces personnes s'intéressent à vous?
Oui. Alors, je pense c'est un marché qui est atomisé. Il y a 500 banques en Suisse. Toutes les banques n'ont pas de service fiduciaire. Alors, certes, il y en a qui en ont. Nous, on est, disons, notamment pour certaines banques privées étrangères qui n'ont pas de service elles-mêmes, elles nous le sous-traitent chez nous. Donc, vous avez raison, mais enfin, disons, il y a de la place pour tous les acteurs, notamment pour Michelou et compagnie, qui offrent ces services de domiciliation pour les gens qui s'installent au Fourfaire.
Mais concrètement, vous faites comment pour attirer ces milliardaires en Suisse? Vous vous occupez d'eux une fois qu'ils sont sur place ou vous allez les chercher à l'étranger?
Non, on ne va pas chercher les gens à l'étranger, les gens viennent. Hein. Donc la Suisse est un produit qui se vend tout seul. Je crois vraiment, en tout cas pour nous, c'est comme ça. Hein. Moi, je n'ai jamais eu de client qui s'est installé en Suisse suite à ce que je lui avais dit. Les gens veulent s'installer en Suisse, ils viennent confirmer pour savoir si c'est possible et comment. Ensuite, combien ça leur coûtera, particulièrement fiscalement. Et ensuite, c'est plus qu'une question de réalisation et de savoir où et quand.
Alors justement, on parle du forfait fiscal. Est-ce que vous pouvez nous donner les conditions pour pouvoir obtenir ce forfait fiscal?
Alors, le forfait fiscal est un privilège qui est, réservé aux étrangers. Les Suisses, malheureusement, ne peuvent pas encore en bénéficier. Il s'agit simplement d'un plafonnement du montant de la facture d'impôt annuel. Les impôts sont plus calculés plus uniquement, sur le revenu ou sur la fortune, mais principalement, en tout cas, dans la loi, c'est comme ça, sur le montant qui est dépensé pour le loyer ou alors, évidemment, le prix de la maison dans laquelle ils habitent ici en Suisse.
Mais c'est une négociation avec le fisc ou c'est un forfait qui est défini?
Non, il s'agit d'une négociation avec le fisc du canton dans lequel la personne va s'installer. Dans certains cantons, c'est avec le district, c'est jamais avec la commune. Hein. On entend parfois des maires qui sont tout pétulants, plein de bonnes intentions, et puis qui font une annonce comme ça en disant qu'ils vont offrir des forfaits pas chers. Alors non, c'est pas de leur ressort. Hein.
Et puis là, votre valeur ajoutée, c'est justement ces négociations avec le fisc?
Bon, on a une valeur ajoutée, qui a plusieurs niveaux, mais enfin, on a un service qui comprend tout ce qui est nécessaire pour s'installer en Suisse, pour les gens qui s'installent au forfait. Donc, notamment, évidemment, la négociation du forfait. Mais enfin, la négociation du forfait, c'est un moment dans ce processus-là qui a une importance, évidemment, qui est cardinale, mais enfin, ça ne suffit pas à soi-même. Hein. Parce que vous avez le forfait, vous ne pouvez pas dormir dans le ruling. Hein.
Non, mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Alors, concrètement, ce qu'on offre, c'est un service, qui s'occupe permis de séjour, la fiscalité donc en amont et puis ensuite après en aval au moment où la personne est domiciliée ici avec notamment les traités de double imposition et tous les aspects pratiques recherche d'une maison, d'une résidence, négociation de divers ordres avec des partenaires locaux et également école pour les enfants.
Alors on connaît le marché dans la région qui est assez serré, assez pauvre. Alors comment est-ce que vous faites pour réussir à obtenir séduire ces gens-là et à obtenir ce qu'ils souhaitent?
Au niveau de l'immobilier.
Oui, pour l'immobilier, vous semblez indiquer que le marché pour les riches est pauvre. Bon, c'est des propos qui vous appartiennent. Je dirais que...
On trouve facilement le logement?
Oui. Alors, ça dépend ce qu'on cherche et où. Mais il faut comprendre que pour nous, Suisse, on est attaché à une région. Et en général, étant donné la densité d'implantation sur le territoire suisse, pour nous, une région, c'est pas très grand. Quand on vient s'installer depuis l'étranger, la distance entre Genève, Lausanne et Montreux, elle paraît pas énorme. Hein. Et la distance en courbe isochrone, elle est encore plus petite. Si on est à Londres et qu'on veut aller dans un des aéroports, c'est quasiment le temps qu'il vous faut pour aller à Zurich en Suisse. Donc quelque part, certainement, si on regarde par exemple la disponibilité de logements dans une certaine catégorie, dans la ville de Genève ou dans la commune de Cologny, certainement qu'on va trouver le marché un peu sec. Maintenant, si on le compare par exemple à la ville de Londres, on a beaucoup de clients anglais, donc je reprends cet exemple, je pense pas que pour un londonien, il va trouver ça ni spécialement cher, ni spécialement sec.
Justement, eux, ils sont prêts à payer des fortunes pour des objets immobiliers. Est-ce que c'est pas un peu une concurrence déloyale par rapport aux Suisses qui cherchent à s'acheter une maison?
Alors, c'est une excellente question. À mon avis, pas du tout. On a déjà des lois, qui sont, je pense qu'on pourrait le dire, quasi discriminatoires quant à l'acquisition d'immobilier. Si vous voulez acheter un bien en Savoie, par exemple, ou alors dans le Piémont, vous pouvez le faire. Si un étranger qui n'est pas résident en Suisse, il ne peut pas le faire. Donc ici, en Suisse, on a décidé, finalement, je comprends hein, que le législateur et que le peuple ait décidé de voter ces lois et de les maintenir. Mais seuls les gens qui sont résidents, ce qui est quand même une minorité infime des gens qui ont un intérêt pour la Suisse, ont la possibilité de se mettre en concurrence directe avec un Suisse pour un bien, dans une zone qui n'est pas touristique. Et j'aimerais juste ajouter que, pour les gens qui s'installent ici au forfait, il s'agit vraiment d'un nombre de personnes quand même extrêmement limité qui s'intéressent en général à des biens qui sont hors de la portée du commun des mortels. Donc je ne pense pas que ce soit les gens au forfait qui soient la cause de la crise du logement.
Alors maintenant, vous connaissez, vous travaillez dans ce domaine depuis à peu près 6-7 ans. Alors vous connaissez bien ce domaine. Vous avez combien combien de clients pour vous permettre de survivre?
Alors, suffisamment pour bien m'occuper.
Suffisamment, c'est quoi? 10, 20, 50, 100?
Oui, alors ça me regarde, mais disons, sachez simplement qu'hier, je suis parti vraiment très tard du bureau, je suis arrivé ce matin très tôt, je ne suis pas au chômage, disons, voilà.
Mais est-ce que vous êtes un majordome amélioré, d'une certaine façon?
Oui, alors, écoutez, pas vraiment, mais enfin, on essaie d'avoir le style, l'élégance et la disponibilité du majordome anglais à l'ancien style. On se limite par contre, à cause de nos capacités qui sont limitées en la matière, à des services qui ont trait plutôt au papier, qu'au toast et à la confiture d'orange.
Mais en fait, vous êtes utile au moment où ils viennent s'installer pour négocier le forfait, pour acheter une maison, trouver une école aux enfants. Et une fois que tout ça est fait, vous perdez votre client, vous n'avez plus aucune valeur ajoutée avec lui.
Alors, oui, c'est ce qu'on avait pensé au début. Alors, en fait, on s'est rendu compte, pas du tout. On devient, alors, dans la majorité des cas, pas forcément pour tous, mais vraiment l'immense majorité de nos clients installés ici par nos services, on devient l'interlocuteur de référence. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une question sur quelque chose qu'ils connaissent pas bien en Suisse, ils vont nous poser la question. En général, disons, ça va se solder par nous qui allons les envoyer chez une personne de confiance qui peut les aider pour tel ou tel problème qu'ils ont. Ou alors, on va continuer à répondre à leurs questions. Donc, on a une relation, on les voit plusieurs fois par année pendant toute la durée de leur installation. Ça, c'est clair.
Ouais. Et François Michelou, est-ce que vous arrivez à voir ce qui ressort du classement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un pays prédominant de personnes qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a plus de Russes, par exemple, maintenant, ces dernières années, qui viennent vous voir?
Oui, alors, concernant le classement, il vous faut interroger M. Vial, qui connaît le classement beaucoup mieux que moi, étant donné que lui l'a écrit et moi je ne l'ai pas encore lu, vu qu'il sort demain dans les journaux. Concernant de manière plus générale les gens qui s'installent en Suisse, disons, pour parler simplement dans la catégorie des gens au forfait, clairement, il y a beaucoup plus de ressortissants de l'Union européenne. Union européenne, c'est-à-dire Europe occidentale, on a encore extrêmement peu de gens qui viennent des nouveaux pays membres, donc des pays de l'Est. Quant aux pays qui sont très à l'Est, vous mentionnez la Russie, il y en a extrêmement peu. On a coutume à dire qu'il est plus difficile pour une Bentley de passer par le chat d'une aiguille que pour un Russe de passer à travers les fourches caudines de l'IMES.
C'est ce qu'on vous dit du côté des banques ?
Non, alors les banques, écoutez, ont un problème différent. Les banques, elles, ont, je crois, bien qu'elles n'aiment pas forcément le dire, beaucoup de clientèle russe. C'est une clientèle qui se développe. C'est pas la clientèle que le commun des mortels, dans les discussions de café du commerce, on a tendance à penser que tous les Russes sont des gens malhonnêtes. Est-ce que c'est vrai? Alors moi, je pense que c'est quand même un peu exagéré comme vision. Enfin, les banques, disons, vont en général ouvrir les comptes sur place, vont vérifier sur place les dires des clients. Mais par contre, il ne suffit pas d'avoir un compte en Suisse pour avoir un permis de séjour.
L'Union européenne fait actuellement pression sur les entreprises qui viennent s'installer ici parce qu'on leur permet d'avoir des rabais fiscaux. Vous pensez que ça va aussi être le cas pour l'imposition au forfait des particuliers?
Bon, écoutez, je pense que c'est possible qu'une fois ce sujet soit mentionné dans des négociations. Maintenant, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que pour quelqu'un qui estime payer trop d'impôts dans son pays de résidence, il y a quand même pas mal de destinations alternatives à la Suisse, à commencer par Londres, à Bruxelles, Monaco, Andorre, ou alors évidemment la Suisse. Et donc il y a un nombre d'acteurs, si vous voulez, sur ce marché qui offrent tous, disons, des solutions différentes. Hein. C'est chaque fois des solutions qui ont des particularités, qui sont plus ou moins intéressantes fiscalement. La Suisse n'étant certainement pas la plus intéressante. Hein. Si vous allez à Monaco, les impôts c'est zéro, et ça on peut pas battre. Hein. En Suisse, je peux vous dire que c'est pas zéro. Donc je dirais que s'ils veulent faire sur la Suisse, qu'ils viennent et alors qu'ils fassent pression sur tous les États. Quand il n'y aura plus une seule goutte dans le citron, ils iront au Bahamas.
Voilà, on comprend un petit peu quelles sont les conditions pour pouvoir venir en Suisse et quelles sont les conditions de Thierry Vial pour pouvoir faire partie du classement des 300 plus riches.
Alors pour faire partie du classement, il faut déjà avoir une fortune qui est supérieure ou égale à 100 millions de francs. Il faut être de nationalité helvétique ou être résident sur le sol suisse.
Alors c'est un classement, comme on l'a dit, qu'on va pouvoir découvrir demain. Bon, voilà, les 5 premiers, on sait, hein, ça s'est déjà un petit peu échappé, on sait qui ils sont. D'ailleurs, on peut dire le premier qui en Suisse, c'est le quatrième mondial.
Oui, c'est bien ça. Donc Ingvar Kamprad est classé quatrième dans le classement mondial de Forbes. Bill Gates est premier avec 60 milliards. Ensuite, on a Warren Buffett avec 51 milliards qui est deuxième.
Alors pour tous les détails, il suffit de regarder le classement plus en détail. Vous allez voir, il y a quelques petites excentricités à découvrir. Et si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible sur nos sites respectifs, les www.bilan.ch ou radiolac.ch. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.
Le lunch Tendance Éco, un zoom sur l'actualité économique avec les rédactions du magazine Bilan et de Radiolac, en partenariat avec realtimeforex.ch, spécialiste du trading en ligne de devises, et le groupe hôtelier Manhotel.